Et voilà, c'était le temps des fleurs. C'était la chanteuse Ima qui a véritablement amorcé sa carrière, si on peut dire, en 2001, je pense, alors qu'elle participait au concours Ma première place des arts. Et s'en est suivi plusieurs albums. Elle a été non seulement présente sur scène, mais aussi elle a participé à sa façon à certaines causes humanitaires. Elle partage aujourd'hui son temps entre le yoga, une carrière radiophonique et son rôle de maman. Alors c'était donc la reprise d'une chanson popularisée par la chanteuse grecque Vicky Leandros à partir de 1968. Eh bien, les régions du Québec ne manquent pas de lieux intéressants à visiter cet été. C'est le cas de la belle région de Kamouraska et notamment, enfin, qui nous offre de beaux jardins et pas seulement des jardins de fleurs. Eh bien, si vous aimez jardiner, je vous invite à découvrir la Société des plantes de Kamouraska, un lieu qui est au départ un lieu de recherche et d'expérimentation, mais aussi un endroit où on offre des semences biologiques de plantes et de légumes. J'en parle avec Patrice Fortier, directeur de la Société des plantes de Kamouraska. Bonjour!
Bonjour.
Bon, ben, on vous décrit en fait comme une agence de rencontre entre les plantes et les jardiniers. C'est un peu ça.
Ouais, ben j'ai sorti ça un peu comme titre un jour parce que j'ai eu le don de mettre en marché des produits pour lesquels il n'y avait aucune demande parce qu'ils n'étaient pas connus au départ. Donc ça implique qu'il faut les décrire qualitativement puis donner envie aux gens de les rencontrer. Si c'est des trucs qui leur... Tout le monde n'a pas envie de manger une plante charnue avec un sucre acidulé à l'intérieur de la feuille. C'est le cas de la ficoïde glaciale, par exemple. Donc, il y a des gens qui aiment les choses bien piquantes. Et puis, il y a beaucoup de légumes, beaucoup de plantes comestibles qui ne sont pas connues, qu'on ne retrouve pas à l'épicerie. Puis, c'est le propre de la Société des plantes de proposer des alternatives, justement, des choses... on a aussi des laitues, des carottes, mais on offre des alternatives pour les gens qui veulent explorer un peu.
C'est ça, parce que, bon, d'abord, la Société des plantes de Kamouraska existe depuis une vingtaine d'années, et depuis ce temps-là, ben, vous avez quand même réussi à faire des croisements aussi, à créer quand même des variétés tout à fait nouvelles.
Oui, en fait, on préserve principalement du patrimoine végétal très souvent ancien. On préserve à l'identique des variétés patrimoniales, mais on se sert de ces variétés anciennes-là aussi comme des couleurs, dans une boîte de couleurs, pour faire des croisements, pour générer des nouvelles variétés aussi. Mais dans les méthodes, en utilisant des méthodes très ancestrales pour créer des variétés.
C'est ça.
Donc, oui. Comme ça s'est toujours fait, en fait.
Ouais, parce que
tellement de patrimoine végétal, tu sais, mondialement, on en a perdu beaucoup au courant de l'ère industrielle. Donc, mais la beauté, c'est qu'on peut quand même en recréer de la diversité.
Ah, ben ça, c'est bien à savoir. Et puis, vous vous inspirez, bon, c'est ça, de différentes cultures, comme par exemple la culture autochtone. Je pense à la manière, par exemple, de consommer le maïs, bien sûr, des cultures d'ailleurs aussi, que ce soit enfin dans toutes sortes de pays. Évidemment, vous avez beaucoup de... Il y a tout un travail d'ethnologie aussi, d'histoire qui a été fait.
Oui, parce que parfois, c'est bien beau faire pousser quelque chose, mais si on ne sait pas comment l'apprêter, ben, ça peut prendre du temps avant qu'on l'apprécie. Donc, oui, comme de fait, il y a des fois, on peut s'inspirer. Mais c'est très beau, cette histoire-là, des aliments, parce que, entre autres, il y a beaucoup de légumes autochtones qui sont partis naturellement avec la conquête au 17e siècle, qui sont allés en Europe. Il n'y avait pas de tomates en Europe avant la découverte de l'Amérique. Et puis, donc, il y a des variétés qui se sont développées en Europe et puis qui sont revenues ici. Même chose pour les courges, les haricots. Donc, l'histoire, ces plantes-là voyagent et se transforment au gré de leur voyage. Donc souvent, on peut combiner le savoir d'un endroit et le savoir d'un autre endroit dans le monde qui a apprêté cette même plante différemment.
Tout à fait.
On peut effectuer des sélections génétiques tout à fait différentes. C'est ce qui fait que la même plante botanique nous donne du céleri rave dans les pays du Nord et des céleris à tiges juteuses plus au Sud. Donc, ou ailleurs en Asie, ça va être axé plus sur la feuille que la tige. tige ou la racine. Donc, différents endroits dans le monde ont traité les mêmes plantes, botaniquement parlant, de différentes façons. Donc, en mettant l'emphase sur des parties différentes. Très
c'est ça. Ah, mais absolument. Et puis, évidemment, là, on parle de semences aussi qui doivent s'adapter à différentes régions. Même ici, à travers le Québec, là, on n'a pas tout, on n'a pas, chaque région n'a pas nécessairement les mêmes conditions. Alors, vous développez, évidemment, bon, des espèces moins connues ou même pas connues du tout, là.
Mm-hmm, exact.
Et puis, les adapter, c'est tout un défi aussi.
Adapter les espèces ou adapter nos méthodes. Parfois, c'est d'adapter, trouver les bons protocoles de culture parce que tous ces produits-là, toutes ces plantes-là ne sont pas nécessairement répertoriées dans des livres. C'est sûr qu'avec Internet, maintenant, contrairement à quand j'ai débuté dans le métier, on a beaucoup de ressources. Mais souvent, les ressources qu'on trouve ne sont pas adaptées au nord-est du Québec. Bon. Alors, il faut trouver comment les cultiver puis comment les adapter ou adapter la génétique à notre... Il y a deux façons d'adapter, dans les deux sens.
Mm-hmm. C'est ça. Puis, en fait, bon, là, il y a plusieurs ressources maintenant dont on dispose au niveau de l'agriculture biologique, bien entendu, mais il y a tout cet intérêt aussi qui se développe par rapport aux producteurs locaux, mais aussi des chefs, hein, parce que, évidemment, vous arrimez, évidemment, tout ça avec... vous amenez ça sur la table par le biais de restaurateurs, de chefs connus aussi.
Oui, en fait, les chefs ont joué un rôle prépondérant pour faire connaître certains de ces produits, parce que souvent, c'est par là que ça commence. Donc, il y a des produits qui apparaissent. Puis, je parle de produits comme si c'était des nouveautés, mais parfois, c'est aussi, ça peut être des plantes qu'on appelle mauvaises herbes ou mm-hmm. des plantes qu'on conçoit pas nécessairement comme des légumes. Mais dans les restaurants, il y a toute une recherche qui s'effectue et ils font un travail d'ambassadeur, souvent d'ambassadrice pour les plantes. Donc, on a des marchés parce que, vous savez, les habitudes sont difficiles à bousculer. Une carotte, pour la plupart des gens, c'est orange, ouais. Une betterave, c'est rouge. Donc, quand on veut essayer de faire découvrir la betterave blanche, qui est plus sucrée et qui ne tache pas, et puis qui a un grain encore plus fin, qui a plein de qualités, il y a quand même toute une partie de la population qui dit « Non, pour moi, une betterave, c'est rouge. » Alors souvent, les chefs, les restaurants peuvent nous aider à faire valoir les qualités de ces plantes-là qui font pas partie de nos habitudes.
C'est ça. Et bien sûr, dans les médias, alors les chefs connus contribuent aussi à faire connaître ces produits, bien entendu. Alors, à chaque fois que quelqu'un parle d'un nouveau produit, d'un nouveau légume ou enfin d'une nouvelle plante, c'est sûr que là, vous recevez des appels assez régulièrement.
Oui, je dois dire que vraiment en 20 ans, ça fait 21 ans cette année, que j'opère à la Société des plantes. Et le marché a complètement changé, a beaucoup changé. Donc, beaucoup de genres de produits plus obscurs, comme des légumes vivaces, comme le chervi, par exemple, qui est un membre de la famille de la carotte, qui est vivace et quand même à la fois ornemental et comestible et assez facile de culture, finalement. Eh bien, la demande était très restreinte avec un groupe social particulier, surtout des jeunes alternatifs qui font de la permaculture. Mais maintenant, ça a éclaté, la demande. Les gens dans les banlieues, les journalistes ont très bien fait leur travail, souvent. Donc, ils ont fait éclater la demande pour... Il y a beaucoup plus de curiosité, généralement, dans la population.
Ah ben ça, c'est très intéressant. Puis, en fait, c'est ça. Puis vous faites un travail formidable. Votre jardin, en fait, n'a pas toujours été vraiment ouvert au public. Là, je pense que vous l'ouvrez maintenant au public.
C'est la première année. En fait, avant, c'était sur rendez-vous. Je le faisais sporadiquement, de temps en temps. Et je n'ai jamais eu de boutique officiellement ouverte au public. C'est la première année, en 2022, qu'on le fait. On n'a pas encore complètement terminé toute la mise en place. Ça va se poursuivre encore d'ici l'an prochain. Mais ça implique d'avoir des stationnements, une signalétique, tout ça. Mais la boutique est ouverte en ce moment. Notre horaire sur Google est toujours...
C'est bien affiché, oui.
Il est bien affiché. Donc, si c'est marqué de 10h à 5h, c'est de 10h à 5h.
Voilà.
Et oui, et puis ça...
Ben ça, c'est formidable. Ça,
je crois que ça comble un manque. Il y avait comme une demande, en fait, mais on est un peu plus... on a grossi l'équipe, donc ça prend quand même plus de...
C'est sûr, ça prend plus de ressources.
Et derrière le comptoir en même temps.
Oui, ça prend des ressources, effectivement.
Maintenant, on est équipé pour recevoir.
Ah, ben ça, c'est vraiment une belle nouvelle parce que vraiment, vos jardins sont splendides. Mais enfin, évidemment, on découvre plein de choses. Et puis, je pense qu'il y a une exposition aussi. Enfin, c'est un de vos projets. C'est le Centre d'art de Kamouraska qui présente une exposition.
Oui, tout l'été jusqu'à la fin août. Ça s'appelle « Mi-sauvage ». C'est une exposition qui s'attarde à faire revoir sous un autre jour les plantes spontanées, les adventices. Donc, les plantes qui ont tendance à se ressemer d'elles-mêmes sans qu'on ait notre... Ben, des fois qu'on n'a pas décidé de les faire apparaître et puis elles apparaissent toutes seules, comme ça peut être le plantain, le pissenlit, mais il y a d'autres plantes aussi, comme les mauves musquées, des plantes qu'on trouve peut-être plus désirables. Il y en a qui ont des belles floraisons. Mm-hmm. Donc, on explore le royaume de ces plantes adventices-là à travers un jardin formel très coloré. Et une publication d'une soixantaine de pages qui est disponible aussi à la boutique et sur notre site web et au Centre d'art. Et il y a des ateliers. Des ateliers se réservent à partir du Centre d'art et sur leur site web. Et voilà.
Bon, ça, c'est merveilleux aussi. Les ateliers, en fait, c'était aussi un besoin, une demande que l'on vous faisait souvent, oui.
Oui, on va avoir de plus en plus d'ateliers à la Société des plantes dans le futur. Les années qui viennent, je suis en train de monter un corpus de formation d'une demi-journée, parfois d'une journée au complet, pour tendre la main, parce que je me rends compte que tout le monde n'a pas le temps ou l'envie de faire des essais-erreurs pendant plein d'années, comme j'ai fait. Donc, à un moment donné, c'est de partager nos découvertes et puis... parce que des fois, c'est bien beau de dire en deux, trois phrases, oui, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, puis
c'est plus
vous
complexe.
Faites la soupe avec ça, puis c'est bien bon. Donc, si on le fait ensemble, c'est plus concret pour
exact.
Les gens.
Bon, ouais. Ben, Patrice Fortier, merci d'être venu nous en parler, dire que vous êtes parti d'une formation en art visuel pour devenir jardinier et semeur de profession. Franchement, alors, on est très gâtés de toute façon avec cette Société des plantes de Kamouraska. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.
Une belle journée à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.